réplique « La médecine face à la fin de vie » avec Emmanuel Bernheim et Robert Moulias. Le débat sur l'euthanasie et la fin de vie vient d'être relancé par la loi Claeys-Leonetti qui rend contraignantes les directives anticipées des patients et qui reconnaît le droit à la sédation profonde et continue lors d'une maladie grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cette loi est-elle un progrès timide ou une grave régression? C'est ce que nous verrons avec la romancière Emmanuelle Bernheim et avec Robert Moulias, qui est professeur de gériatrie. Mais sur ce sujet, plus que sur tout autre peut-être, ce sont les cas particuliers qui nous font réfléchir. Commençons donc par là. Dans un très beau livre, au titre douloureusement ironique, « Tout s'est bien passé », Emmanuel Bernheim, vous racontez la fin de vie de votre père. Pourriez-vous nous résumer cette histoire et nous dire quelle conclusion, quelle leçon vous en avez tirée, Emmanuel Bernheim?
Bon, mon père avait 88 ans, c'était un homme extraordinairement actif, curieux et juvénile. Je dis pas ça parce que c'était mon père, mais vraiment, enfin, c'était un homme très très rieur et très très vivant. Bon, il a fait un AVC, un accident vasculaire cérébral, qu'il a laissé hémiplégique du côté droit, alors qu'il était à 100% droitier, et il s'est retrouvé donc du jour au lendemain, lui qui était très très actif, cloué dans un premier temps à un lit, mais vraiment comme un papillon sur un bouchon de liège, donc immobilisé, dépendant, et très vite, ce qui était extraordinairement bouleversant pour moi, il me disait « ce n'est plus moi ». Il ne se reconnaissait plus dans ce corps à moitié mort, dans ce corps inerte, et il a été comme ça dans une espèce de désarroi et de désespoir total. Alors on lui a donné des antidépresseurs, etc., mais il m'a très vite fait savoir qu'il ne voulait pas vivre comme ça et qu'il souhaitait en finir. Et il m'a dit à plusieurs reprises, je t'en supplie, ne me laisse pas tomber. Aide-moi à mourir. J'ai accepté de le faire. Or, aider quelqu'un à mourir, ça veut dire quoi? Moi, j'imaginais une chose tout à fait agréable, qu'on allait se réunir autour de lui, avec des amis proches, enfin, les gens qui lui étaient les plus chers.
Est-ce que, une seconde, vous dites « j'ai accepté de le faire », c'était votre père, vous dites dans votre livre que votre sœur aussi vous a aidé.
Bien sûr.
Mais est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous avez essayé de le convaincre qu'il fallait vivre quand même? Est-ce que vous vous êtes dit « c'est pas à moi, sa fille, d'aller jusque-là, de commettre ce que d'aucuns appelleraient une sorte de parricide » Ou bien
non,
est-ce que vous avez tout de suite compris qu'il fallait l'aider?
J'ai tout de suite compris qu'il fallait l'aider. Je l'aimais, je le connaissais par cœur, si je peux dire. Je savais que c'était son profond désir. Je savais qu'il avait toujours espéré. Il était très téméraire et très casse-cou. Je sais qu'il avait toujours espéré et qu'il m'avait souvent dit, même en riant parce qu'il avait beaucoup d'humour, qu'il espérait. Il me disait mourir comme ça, paf, ce serait ce qui pourrait m'arriver de mieux. Bon, donc j'ai très peu hésité. Je lui ai dit non, mais essaye d'abord les antidépresseurs, etc. Tout en sachant très bien d'abord qu'il était têtu comme une mule et que ça correspondait. Et puis il y avait eu un épisode précédent où je l'avais accompagné chez un psychiatre et il m'avait dit, quand je suis restée seule avec lui, je lui ai dit que si ça ne tenait qu'à moi, j'en finirais tout de suite. Parce qu'à ce moment-là, il avait juste eu un problème de genou, un problème mécanique qui allait l'empêcher de courir partout. Bon. Donc je savais que ça correspondait à un vrai désir chez lui et je n'ai pas hésité. Mais j'ai pas pensé ni au parricide, ni au danger que je courais, ni au fait que c'était totalement illégal. J'ai pensé accéder à sa demande. Voilà. Je ne pouvais pas refuser. Bon. Donc, comment on fait? Moi, je pensais qu'on allait pouvoir se réunir autour de lui, boire une dernière coupe de champagne ou quelque chose qui lui ferait plaisir, et puis qu'il avalerait une potion que le médecin nous donnerait, et qu'on l'entourerait, et que ça se passerait comme ça dans sa chambre, à un moment où qu'on aurait décidé tous ensemble que ce serait à la fois émouvant et joyeux, enfin, et serein. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout, du tout, quoi. Personne, quand j'ai commencé à parler à ces médecins de ce désir, ils m'ont dit cette phrase que je trouve absolument horrible, on va lui donner des antidépresseurs et vous verrez, à la fin, ils s'accrochent tous à la vie.
Oui.
Voilà, au début, ils sont là, et à la fin, ils s'accrochent tous à la vie. Or, je savais que mon père ne serait pas dans le cas de figure de ce « ils s'accrochent tous à la vie ». Et voilà, donc j'ai décidé de l'aider à mourir. Et bon, alors là, ça a été toute une aventure que je vous épargne. Nous avons dû aller en Suisse. Enfin, il a dû aller en Suisse. Il se trouve que au moment où il devait partir, enfin en ambulance pour y aller, on nous a dénoncés à la police, ma sœur et moi, et nous avons été interrogés une partie de la nuit séparément comme deux criminels, accueillis par un flic au crâne rasé qui nous a dit « c'est vous les sœurs » comme si on était les sœurs Papin, et interrogés toutes les deux séparément, finalement relâchés grâce à une commissaire de police assez extraordinaire et un procureur de nuit compréhensif. Et mon père est parti seul en Suisse mourir, selon son désir. Voilà. Et ce que j'en retire, moi, c'était d'abord le moment absolument bouleversant où mon père a compris qu'il allait pouvoir mourir, la première fois qu'il a rencontré la dame suisse, qui est de l'association suisse à laquelle nous avons eu affaire, qui est venue lui parler, lui raconter comment ça allait se passer, de façon très crue, parce que c'était comme ça, on vous dit, il faut d'abord boire une première potion amère, enfin bref. Dès que mon père a su qu'il allait pouvoir mourir, il a commencé à aller mieux, et il a commencé presque à revivre, c'est-à-dire que le peu de progrès qu'il pouvait faire, il les a faits et sa fin de vie a été presque sauvée par la possibilité et la liberté de mourir. Donc, ma conclusion, c'est que si c'était à refaire, je le referais demain.
Bien. Alors, vous êtes professeur de gériatrie, Robert Molias, vous entendez un récit comme celui-là. Quelle est votre réaction ?
Alors, ce récit est effectivement très, très émouvant et du vécu. Il pose d'abord un premier problème. Il ne s'agit pas d'une fin de vie, il s'agit d'une vie invivable, d'une vie qui a été jugée invivable. Ce qui est un tout autre problème que celui que prétend régler la loi dans la mesure où il s'agit d'une fin de vie annoncée. Là, c'est que faire en discuter, que faire devant une situation dans laquelle la personne, et ici c'est la personne, parfois l'entourage, c'est bien plus souvent l'entourage, va juger qu'une telle vie est invivable. Donc ça pose un premier problème dont il n'est pas question dans la loi, alors que finalement, les cas qui ont fait médiation, je ne vais pas les citer, mais vous connaissez tous, sont des cas dans lesquels la vie a été jugée invivable, et non pas des cas de situation de fin de vie. Donc on fait une loi qui est à côté du problème qui a été soulevé par la fin de vie. Alors bien sûr, qui a été soulevé par cette question de la vie invivable qui n'est jamais posée, qui se pose en sérieux.
C'est-à-dire que là, on prévoit une sorte d'assistance à la mort pour les toutes dernières semaines de la vie, sans prendre en compte des cas comme celui-là, il y en a d'autres, où la médecine, de toute façon, annonce qu'elle ne pourra rien faire, sinon améliorer l'état mental, et en même temps, elle refuse d'envisager d'aider le patient à mourir. On se replie sur les dernières semaines parce qu'on n'ose pas envisager cette question plus vaste.
Ce n'est pas envisager. Le médecin est là pour soigner, ce qui est une mission totalement différente. Donc, je reviens sur le problème. Alors, je reviens un peu sur le problème de la fin de vie elle-même. La fin de vie, souvent en gériatrie, n'est pas dans la condition d'une situation dans laquelle on sait que la personne va mourir obligatoirement. ce qui est souvent le cas dans la fin de vie de certains cancéreux, dans telle condition. On est dans une situation dans laquelle il y a un risque de mort, mais il y a le plus souvent, mais il n'y a pas une certitude de mort. Donc, la loi est pas du tout applicable à cette ni les directives anticipées à ces situations les plus fréquentes. Je reviens sur ce cas-là parce que finalement de quoi s'agit-il et d'un problème totalement différent qui est celui de la dépendance. Voilà une personne qui brusquement du jour au lendemain est passée de l'état de fitness, d'avoir ses pleines capacités. L'âge ne détruit pas les capacités, absolument pas. Et en particulier, ni les capacités musculaires, ni les capacités cognitives, sauf si on a une maladie. Les maladies neurodégénératives étant un autre problème que celui de l'âge. On peut avoir une.
C'est souvent lié quand même. Hein,
c'est souvent lié, mais on peut avoir les Alzheimer des plus graves, c'est ce qu'on a à 35 ans.
Oui, oui.
On reviendra à 85 ans, c'est jamais tout à fait des Alzheimer.
Oui, mais enfin, ce sont des états de démence sénile liés à l'âge.
C'est des états de sémence qui sont plus fréquents avec l'âge.
Ah, oui.
Ce qui est une notion déjà extrêmement différente. Ce n'est pas la vision que certains avaient, que l'âge s'accompagne forcément d'un déclin cognitif. On a un déclin cognitif si on ne fait plus rien. Je reviens.
Alors, vous dites, sur ce cas-là, qu'est-ce que vous, médecin, vous envisagez de faire? Est-ce que vous comprenez le désir de mourir et est-ce que vous seriez capable, en tant que médecin, de l'entendre et de l'accompagner?
On entend ce désir, on ne l'accompagne pas, on propose autre chose, ce qui n'est pas forcément quoi. Le problème est que cette personne est passée dans une situation de dépendance.
Oui.
Elle ne peut plus accomplir elle-même ses activités élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est vécu comme une déchéance. Le jour où il y aura une vraie législation, non pas sur la fin de vie, mais sur la vie de la personne dépendante, qui permettent de prévoir l'accompagnement de ces personnes, de leur redonner une vie sociale. Les tétraplégiques, pire, deviennent, disent nos réanimateurs, suicidaires quand ils réalisent que ça va être la fin de leur vie sociale. On est capable de leur donner une vie sociale. De s'occuper des aidants qui se trouvent chargés d'une responsabilité de proche aidant qui est totalement nouvelle pour eux.
Alors ils ne recourront pas suicide.
Si on peut qu'ils ne vivent plus cela comme une déchéance, à ce moment-là, il n'y a plus de demande de suicide. Donc le problème est
effectivement... Vous y croyez, ça ?
Non. Enfin, dans le cas de mon père, j'y crois pas du tout. Non,
mais
de quelqu'un qui passe...
À partir du moment où on peut garantir aux gens, c'est une situation qu'on a souvent, qu'on va s'occuper d'eux.
Écoutez.
Là, finalement, c'est « on va vous prendre en charge ».
Mais, monsieur Moulias, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie qu'on les prenne en charge. Et alors, je vais vous citer un autre cas.
Le mot charge est maladroit.
Un autre cas qui est évoqué dans le livre de Paulina Dalmayer, « Je vous tiendrai la main, euthanasie, travaux pratiques » publié aux éditions Plein Jour. C'est un homme qui est allé suivre des soins palliatifs. Hein. Et ce cas est raconté par une dame qui dirige une association baloise d'accompagnement au suicide. Il est arrivé en soins palliatifs pour y attendre les anges, selon sa propre formule. Au bout de 3 semaines, il a appelé cette femme pour qu'elle vienne l'aider. Et il a dit ceci, « Les anges m'ont oublié, maintenant je suis si faible que je ne peux même plus aller aux toilettes tout seul, je refuse qu'une infirmière me lave, je refuse de porter des couches, je rentre à la maison et demande un suicide assisté. » C'est très exactement ce qu'il a fait, il est mort dans son jardin. Écoutez, vous n'allez pas nous dire que les gens pris en charge et à qui on met des couches, parce que c'est exactement ce qui arrive, sont contents qu'on leur mette des couches, ça ne ne pourra jamais arriver, ça.
Ils ne sont pas contents que leur maître découvre, bien entendu, cela n'est pas ça. Mais il y a un problème de reconnaissance de cette situation qui ne concerne pas d'ailleurs que des gens en fin de vie. Ça concerne la totalité de la population, des jeunes frappés de handicaps multiples. Ça concerne la totalité de la population des tétraplégiques, dont certains, je vous rappelle, mènent une vie normale. Normale. Malgré le fait qu'ils aient besoin de couches, ça concerne un certain nombre de personnes qui ne peuvent plus se servir de leurs jambes, mais également de leur bassin, qui doivent porter des couches et qui savent très bien le faire eux-mêmes. Il y a des attitudes à prendre et qui peuvent faire que ces soins intime, fait avec professionnalisme, ne soit plus vécu comme une déchéance. Cela arrive, cela est possible. Un des messages importants est que dans la société et dans le débat politique, ceci est considéré comme des services à la personne, alors que ce n'est pas des services à une personne indépendante, c'est une assistance à une personne qui ne peut pas vivre sans cette aide. Et ceci nécessite qu'il y ait une formation, qu'il y ait une déontologie, qu'il y ait une éthique qui soit différente de celle des services à la personne indépendante. C'est un problème majeur.
Mais par exemple, un homme comme celui dont vous venez de lire, celui qui attendait les anges, qui ne venait pas, ou quelqu'un comme mon père, la dépendance, ce changement de couche et cette chose-là, c'était dans les deux ou trois éléments qui faisaient qu'il ne voulait pas de cette vie-là et que ça lui était intolérable. Bon, à part de trouver des gens plus compétents, je sais pas, enfin, d'une formation mieux pour lui changer ses couches, quelle solution il y a pour ces gens qui ne veulent pas de cette vie-là? Il n'y en a pas.
De mon expérience également, on a vu quand on est gériatre, je rappelle que plus de trois quarts de la population meurt après à l'âge de la vieillesse, ce qui est un grand progrès, et non plus à l'âge de l'enfance ou de l'adolescence ou de la vie adulte. Donc on a une certaine expérience de voir mourir des personnes et des personnes en situation de dépendance, qui n'est pas inéluctable. Seulement 20% de la population âgée meurt dans une situation de dépendance prolongée. Dans les soins tout à fait terminaux, il y a le plus souvent quand même aussi une brève période de dépendance. Mais il est possible, si ceci est accompagné de respect, de la dignité, si c'est fait avec un professionnalisme, c'est pour ça que ce n'est pas aux familles de faire ce travail, c'est à des vrais professionnels, ceci soit engagé et ne soit plus vécu comme une déchéance.
Là quand même, je voudrais revenir sur ce passage de votre livre que vous avez évoqué, Manuel Bernheim, parce qu'il m'avait beaucoup frappé. En effet, une fois que votre père vous annonce sa volonté d'en finir et vous demande de l'aider à en finir, selon sa formule, vous allez voir la femme docteur qui s'occupe de lui. Une femme potelée, dites-vous, au sourire charmant, aux cheveux longs. Et elle reste très souriante pendant l'entretien parce que, précisément, elle est habituée à ce genre de cas. Et en effet, elle a cette phrase sur laquelle je voudrais que nous arrêtions. Ne vous en faites pas, tout va bien se passer. En général, ils finissent tous par s'accrocher à la vie. On va lui donner des antidépresseurs. Moi aussi, j'ai vu sortir autour de moi. Famille, proche, qui disait, je veux tout faire pour que m'éviter la déchéance. Tu me promets, tu feras tout. Le temps passe. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'un pur processus vital. Parce que, effectivement, des gens, à un moment donné, cessent d'être eux-mêmes, se détachent progressivement du monde, perdent le goût des choses, alternent entre sommeil et prostration, mais qu'importe les infirmités physiques et le dépérissement de l'esprit, ils finissent par s'accrocher à la vie. Et la médecine, stable, oui, sur la, oui, certitude à venir de cette espèce de de cette persévérance déshabitée, hein, mm-hmm, de ce procès sans sujet, de ce, oui, il qui n'est plus personne,
oui, exactement, oui,
pour rejeter le, oui, désir, voilà, éperdu de ne pas en arriver là. Parce qu'il y a des gens qui, oui, sont assez lucides quand ça commence pour dire « je ne veux pas finir, oui, comme ça ». Et là, je vous demande très solennellement, Robert Moulias, comment, oui, se fait-il, oui, que la médecine, oui, refuse de les entendre,
oui,
et pour dire « ils s'accrochent à la vie ». Mais on est, oui, l'humanité, ça, n'est pas un accrochement.
Il ne s'agit, voilà, pas, il ne s'agit pas de s'accrocher, de s'accrocher à la vie. Et ce que vous venez de décrire, ce n'est pas la bonne, ce n'est pas la bonne prise en soin. Il ne s'agit pas que des personnes. Au contraire, on a besoin de la coopération permanente de la personne, de, mmh, de la maintenir le plus possible sa lucidité,
mais, oui,
et non pas d'avoir une espèce. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive dans les maladies neurodégénératives, mmh, d'avoir une espèce de personne qui ne réagit plus. Et effectivement, dans quand la personne quand les soins perdent leur sens, il n'est pas question d'avoir des processus, des processus
curatifs. Dans le
curatifs.
Cas de mon père, il était parfaitement lucide, il est resté absolument jusqu'au, oui, bout. Donc sa demande, oui, était réitérée,
oui,
et réitérée. Il ne s'est pas laissé abrutir, oui, par les médicaments, oui, qu'il prenait néanmoins.
Et surtout, il disait, si j'ai un nouvel accident, oui,
je vais perdre la boule. Voilà. Et la Suissesse lui avait dit, si vous n'êtes plus en pleine possession de vos moyens, on ne pourra plus rien faire pour vous. Vous ne pourrez plus mourir chez nous. Donc il était terrorisé à l'idée d'avoir un nouvel AVC, de perdre la boule et de ne plus pouvoir aller mourir. C'était sa terreur, c'était ça.
Tout à fait.
Donc il était pressé par le temps, mais il était d'une lucidité parfaite.
La grande crainte de la population âgée est effectivement d'avoir des troubles cognitifs, de perdre la boule, comme vous dites, et de devenir dépendant. Et là également, et le problème est qu'est-ce qu'on peut faire pour les personnes qui vont devenir, qui ont des maladies neurologiques dégénératives, qui sont variées. Elles ne se limitent pas au seul Alzheimer, c'est beaucoup plus compliqué.
Mais c'est toutes sortes de démences sénales, nous le savons bien.
Démences qui sont plus fréquentes dans la vieillesse. Elles ne sont pas.
Oui, nous sommes d'accord.
C'est des maladies sur lesquelles il y aura peut-être un jour des possibilités, mais sur lesquelles on a des possibilités.
On n'en a pas aujourd'hui.
Mais sur lesquelles il y a des possibilités d'accompagnement. J'aime, oui, bien provoquer en disant j'ai vu des Alzheimer heureux. Mais dans le cas de la personne lucide, qui est intéressante, mais qui est le plus intéressant quand même, c'est dans la mesure où il faut absolument l'aider, il y a des moyens de la persuader qu'elle va être accompagnée et qu'elle ne perdra pas sa dignité,
oui,
restera une personne.
Mais ça, c'est ce
respectée.
Que vous dites.
Oui.
Et c'est ce que vous dites. Mais,
oui,
mais alors,
c'est ce que
si je pose la question,
toujours.
Je disais, j'ai demandé à Manuel Bernheim justement de raconter l'histoire de son père, parce qu'il me semble qu'en effet, la nouvelle loi Leonetti, la deuxième loi, ne s'applique pas, non, à ce, non, cas particulier. Elle, non, fait l'aumône à des malades incurables, ouais, de peut-être une, oui, ou deux semaines, oui, de sédation profonde et continue. Elle ne traite pas, oui, ce problème extrêmement vaste de patients qui n'ont d'autres perspectives que celles, oui, de, malgré tout, leur propre déchéance, oui, accompagnée ou non. Alors, pour être bien sûr, oui, de vous comprendre, Robert Moulias, vous seriez absolument opposé à ce que la France s'aligne sur le modèle de ce qui se fait aujourd'hui en Suisse ou en Belgique, et ou alors dans l'État d'Oregon, où effectivement, il ne s'agit pas de faire mourir pour la médecine un certain nombre de malades, mais de leur permettre de leur offrir une assistance, oui, pharmacologique au suicide pour une potion dont ils s'administreraient eux-mêmes. Est-ce que même cette éventualité vous y êtes hostile?
Parce que quand même, en Suisse, en tout cas, l'association à laquelle moi j'ai eu affaire, c'est mon père qui devait lui-même,
voilà,
ça c'était très, oui, important, c'est mon père devait lui-même prendre le verre, oui, il devait être capable de, oui, boire, de déglutir à peu près un décilitre. Enfin, donc, on lui administrait rien. Hein, c'est pas une piqûre. C'était un geste actif et volontaire. Donc
c'est comme en Oregon.
Voilà, c'est comme en Oregon.
Alors, est-ce que toutes ces éventualités, vous seriez hostile à cela?
C'est une législation qui concerne un certain canton suisse, et non pas la Suisse.
Oui, enfin.
Qui concerne l'État d'Oregon, l'ensemble des États-Unis, et une législation très, très répressive.
Oui, oui. C'est bien ce que je dis. L'Oregon et que peut-être certain canton suisse.
Et la législation belge est très différente.
Alors, que préconiseriez-vous pour la France? Le statu quo ou l'alignement sur l'un ou l'autre de ces modèles?
Absolument pas de l'alignement, pas de statu quo non plus, dans la mesure où il y a des progrès très considérables à faire vis-à-vis de ces situations qui concernent un nombre important de personnes, des personnes qui survivent dans des conditions soit qu'elles jugent invivables, soit que leur entourage est invivable, parce qu'elles sont pas capables de donner leur avis elles-mêmes, et auxquelles on n'assure pas toujours des conditions de vie qui soient dignes, et qui leur assure qu'ils ne la fassent que ceci, ne soit pas une déchéance. Ça concerne un certain nombre de populations handicapées adultes. Je rappelle que le problème de la vie invivable va concerner plutôt des décisions à prendre, souvent par des pédiatres devant une situation néonatale où il y a des dégâts considérables. Va-t-on donner une vie invivable à cet enfant? Va-t-on pas la donner? Que va-t-il faire? Faut-il légiférer sur cette situation? Ça risque de porter. C'est des décisions qui restent des décisions.
Et sinon, on est soumis aux caprices de tel ou tel.
Non,
si
pas aux caprices. Il y a des recommandations, il y a des règles pratiques. C'est très évolutif. Et le problème du cas particulier de monsieur Bernheim, père, c'est celui d'une volonté délibérée. Qui n'est pas toujours, la plupart du temps,
mon père, c'était délibéré et il était capable de l'exprimer. Et il y a beaucoup de gens, moi j'ai reçu un nombre de lettres incalculables de gens qui me demandaient les coordonnées de l'association suisse pour soit un proche, etc. Parce que aucune personne n'écoute ça en France.
Mais
personne n'écoute cette demande-là.
Et là, la question que je vais vous poser la question sous un autre angle, monsieur Moulias. Il me semble que notre rapport à la mort est en train de changer du fait des progrès de la médecine. Nous avons la perspective, si la maladie ne nous emporte pas, de vivre de plus en plus vieux. Mais nous savons aussi que si la médecine peut recycler, remplacer, réparer un corps devenu appareil, elle ne remplace pas, elle ne répare pas vraiment le cerveau. D'où la hantise, et ça vous le voyez, que nous avons tous, à partir peut-être de 40 ou 50 ans, de la maladie d'Alzheimer. C'est un jeu de société. Les gens disent, j'ai oublié ci, j'ai oublié ça, ça y est, c'est la maladie d'Alzheimer. Tout le monde, mais pourquoi? Parce que nous ne sommes plus seulement des êtres pour la mort, comme le voulait Heidegger, mais des êtres pour la démence sénile. Nous avons la perspective de vivre non seulement très vieux, mais peut-être trop vieux. C'est ça, la modernité. C'est le passage du très au trop. On court trop vite avec tous les dopages, et là, on peut vivre trop vieux et donc devenir des nonagénaires déments. Et ça, nous ne le voulons pas. Nous voulons, et nous y pensons très tôt, nous voulons effectivement que la médecine, qui ne peut pas faire autre chose que de fabriquer du handicap, eh bien, nous permette de ne pas être des nonagénaires déments, nous aide à ne pas l'être. Et au nom de quoi la médecine nous refuserait cette aide, puisque précisément elle ne soigne pas ça, puisqu'elle est impuissante à faire autre chose.
Alors, vous faites un procès de la médecine contre laquelle je m'élève. Nous ne sommes pas une machine à faire des handicaps, mais à les éviter. Et le principe de la gériatrie, c'est la prévention, et c'est comment faire pour éviter les handicaps. Et nous évitons le nombre d'accidents vasculaires cérébraux a diminué de façon considérable. On a reporté les maladies sur l'âge de la vieillesse et de la
grande vieillesse. Comment on évite un accident vasculaire cérébral?
Il y a le traitement de l'hypertension. l'hypertension, il y a le traitement des athéromes, il y a le traitement de stress. Et je vous rappellerai que tout n'est pas dans la médecine, d'autre part, que la meilleure façon, et là je suis inquiet pour l'avenir, la meilleure façon de prévenir la maladie d'Alzheimer, c'est d'avoir un bon niveau scolaire à l'âge de 12 ans. Donc on s'en prend. C'est parfaitement démontré par une étude française. Les proportions de malades atteintes d'affections dégénératives ont des différences considérables selon le niveau scolaire de l'enfance. Ça se prépare dès l'enfance. La médecine n'est qu'une part de la longévité et vise au contraire à éviter, à retarder, mais également à éviter les accidents liés au vieillissement, liés à la longévité. Et quand il y a un handicap, et de permettre la rééducation de son handicap, la compensation de son handicap dans la mesure du possible. Et c'est possible pour le handicap moteur, c'est partiellement possible pour le handicap cérébral.
Vous êtes convaincu, Emmanuel Bernard ?
Non, je suis pas convaincu parce que, je repense à mon cas particulier et lettres que j'ai reçues.
Mais il n'y a que des cas particuliers,
oui, c'est ça,
je suis bien d'accord.
Quand on refuse la dépendance, même si on a été plus ou moins un peu rafistolé, les médecins n'entendent pas cette demande.
Les médecins s'occupent de soins, ce n'est pas leur boulot de faire...
Oui.
Alors, celui qui veut mourir, sait très bien mourir lui-même.
Difficile, ça, on ne sait pas. Gilles Deleuze a dû se jeter par la fenêtre, il aurait été un peu mieux qu'on l'aide.
Le suicide passif existe aussi, mais dirons-nous, nous avons notre mission, la société peut prendre d'autres décisions, mais notre mission n'est pas d'achever un patient sur lequel on peut proposer des compensations diverses, une prise en soin, ce qui n'est pas en charge, totalement différent, digne, sur lequel on peut proposer des différentes compensations, y compris quand il y a un trouble de la parole, de récupération de la parole. Ce n'est pas notre mission. Il peut y avoir en Suisse, je pense que c'est des personnes différentes que ceux des médecins qui le font. Et la volonté de suicide d'une personne est parfaitement respectable.
Mais si une personne ne peut pas, parce que ne peut pas parce qu'elle n'a pas de moyens physiques
elle l'a fait elle-même dans le cas
présent. Non, écoutez, autrefois, les gens mouraient chez eux. On leur donnait les derniers sacrements, ils mouraient entourés des leurs. La possibilité s'ouvre de réinventer, grâce précisément à la médecine et à la pharmacologie, une certaine bonne mort. On peut mourir auprès des siens, on peut, avec l'aide de la médecine, j'ai déjà cité dans une émission consacrée à ce thème, le cas fascinant d'Hugo Claus, atteint de la maladie d'Alzheimer, qui avait eu le temps de voir la maladie progresser en lui, et qui à un moment donné a dit « ça suffit », il est allé dans une clinique belge pour le coup, il a sabré le champagne avec sa femme, vous n'avez pas pu accompagner votre père, il a été obligé d'y aller seul parce qu'il était intraitable, inébranlable, et bien voilà. Et donc, l'idée qu'on puisse, et pas forcément d'ailleurs dans une clinique, mais même chez soi, mourir entouré des siens grâce à une injection létale, à un cocktail que vous ne pouvez pas vous procurer de quelque façon que ce soit. Si vous n'êtes pas sûr de mourir, vous mourrez dans des vomissements atroces si vous accumulez les machins, les barbituriques, etc. Mais pourquoi donc la médecine et la pharmacie devraient dire non à cette aspiration à quelque chose malgré tout comme une bonne mort, puisque précisément... On est incurable à ce moment-là.
Que veut dire incurable?
Robert Mouillas.
Le problème est difficile. Incurable, veut dire qu'il ne peut pas être soigné, qu'il ne peut pas être guéri. Mais on a toujours besoin de soins. Alors, il y a deux obstacles majeurs. Il y en a auquel on pense, qui est opposé depuis l'Antiquité jusqu'à en permanence, qui est celui et de la quasi-totalité, pas tous, des médecins, c'est que ce n'est pas notre mission, et que notre mission est également des soignants, et que ceux qui ont fait cette transgression sont par, dans ces cas-là, se sont accompagnées de dérives extraordinaires dans lesquelles nous sommes témoins. Le médecin qui s'arroge le droit de répondre à une demande d'une personne, ce n'est pas le cas de votre père, qui aurait été parfaitement curable, c'est quelque chose que nous voyons quotidiennement. Le risque de dérive l'emporterait sur le risque de bénéfice. C'est un point qu'il faut prendre en considération. Quelles sont les limites que l'on peut mettre? Et puis, également, le côté, pour avoir vu en Belgique ce qui se passe, l'euthanasie de ce malade condamné, peut-être on n'est pas seul. L'euthanasie d'un malade condamné, volontaire et par elle-même, peut être une souffrance extraordinaire
pour les autres,
pour la famille, pour les autres, dont il faut tenir compte et dont on est témoin pour le cas. C'est bien au grand cas de Belge.
Oui, mais le malade et la famille qui le demande. Alors qu'est-ce que vous dites là?
Si c'est le malade et la famille qui demande, la situation est un peu différente. Ce qui se passe en Belgique, mais également, nous avons le risque de dérive qui existe et le fait que je répète que ce n'est pas notre mission.
C'est pas le rôle de la médecine.
Et je citerai en plus l'inverse, puisqu'on parle de Belgique. Moi, j'ai la présidente de l'équivalent de France Alzheimer Belge en pleurs, me disant maintenant, on va euthanasier les Alzheimer en Belgique.
Sans leur volonté.
Sans leur volonté.
Mais alors, je voudrais vous citer
un cas précis de
Georges Steiner, et vous allez me dire comment vous réagissez, Emmanuel Bernheim. Deux phrases peut-être. Dans un long samedi, livre d'entretien avec Laura Adler. Il est inconcevable que l'on puisse garder en vie malgré eux ceux qui n'ont plus pour seul espoir que de quitter la vie. Cela me semble d'un sadisme affreux. Et dans un autre texte, fragment un peu roussi, est-il chose plus cruelle, plus éthiquement répréhensible que le diktat qui maintient en vie l'homme dont le cerveau s'est éteint, le paralysé alimenté par des tubes? Quelle tyrannie plus obscène que celle qui interdit la libération aux comateux, aux patients incarcérés dans l'immobilité, aux morts vivants attachés à la respiration artificielle, évacuant leurs boyaux sous licence chimique? Quelle réponse faites-vous à cette objection qui est quand même forte et qui vient du nom que s'est donné l'association qui milite pour justement cette mort aidée, cette mort assistée, mourir dans la dignité? Les gens vous disent oui, mais les handicapés, ceux effectivement qui doivent vivre avec des couches, ce sont des gens dignes. Et avec ce concept de dignité, c'est comme si vous excluez de la dignité, donc de l'humanité tout court, des gens non performants, non actifs, etc. Que répondez-vous à cette question-là?
Oui, parce que là, c'est une question du de l'appellation. Moi, j'ai tendance à penser le droit de mourir dans la liberté plutôt. Enfin, c'est ça. Parce que ce que j'ai vu chez mon père, et puis je crois que c'était le professeur Tubiana qui avait écrit dans Le Monde quelque chose qui allait dans ce sens, c'est que vraiment, j'insiste là-dessus, quand mon père a su qu'il aurait cette liberté, ça a été un soulagement, une délivrance extraordinaire. Le professeur Tubiana disait la même chose que lui-même, de savoir. Qu'on a cette liberté-là, ça sauve la fin de vie des gens. Mais c'est une chose énorme. Refuser ça, je trouve que c'est, pour moi, ce serait le droit de mourir dans la liberté, de choisir et le moment et de choisir le comment et de choisir le
Pour revenir sur cette citation, il y a deux points différents. Quand une personne se trouve dans ces situations, y compris quand il y a un déficit cognitif, le problème est de rendre permettre à cette personne, on ne peut pas le faire à sa place, de réavoir des objectifs.
Oui,
si on peut éviter la mort sociale de cette personne, et ça c'est pas de la médecine, si on peut éviter la mort sociale de cette personne, et si elle repère des objectifs, elle ne sera plus demandée.
Mais voilà, mon père, la mort a été mourir a été son dernier dernier
oui,
projet.
Oui, ça a été son dernier projet.
Et mais c'était là, vraiment là, c'est, un projet. Là, c'est un projet. C'était dynamique, je, c'était pas une chose lugubre.
Je n'en sais rien. J'ai quand même l'expérience. J'ai vu passer des centaines, des milliers de malades.
Mais on a quand même le sentiment, justement, vous dites, Robert Moulias, ils sont chacun un cas particulier, mais votre a priori, c'est de toute façon, au nom du serment d'Hippocrate, voire peut-être du sixième commandement, de lui refuser cette possibilité-là. Ça pourrait être une possibilité parmi d'autres, mais celle-là, de toute façon, vous fermez la porte. Pourquoi?
Ce n'est pas un a priori. D'abord, je réponds, ce n'est pas ma mission. Il y en a d'autres peuvent le faire. J'ai droit éventuellement à une clause de conscience. On ne peut pas.
Ah oui, mais est-ce que ça peut être la mission d'un médecin qui n'aurait pas la même.
Est-ce que vous dites d'autres peuvent le faire, mais qui
non,
peut
non,
le
ça
faire,
ne, ouais. ça ne, ouais. ça, et je pense que ça, surtout ça ouvre la porte à des dérives. L'expérience prouve que chaque fois qu'on peut présenter des objectifs qui donnent du sens à la vie de la personne, alors effectivement son sens c'était de mourir, ce qui est un cas quand même très spécifique et très particulier. Mais qui donne à ce moment-là, la personne peut revivre. Je vais citer des exemples, j'en ai des dizaines, mais je reviens sur la deuxième partie de la citation. La deuxième partie de la citation que vous faites concerne de l'acharnement thérapeutique. On est tous d'accord pour le refuser. Ça ne sert à rien de maintenir quelqu'un qui n'a pas de cerveau, y compris pour les SMR, il y a un stade dans lequel le contact est perdu et dans lequel il est restreint. Il faut les laisser s'éteindre. Donc le refus de l'acharnement thérapeutique, tous les médecins, presque tous aujourd'hui, sont d'accord avec cela. Mais je cite un exemple d'abus que j'ai vu récemment, mais j'en aurai des dizaines, des centaines. Une vieille dame, un épanchement pleural cancéreux, donc incurable, elle a 86 ans, elle a toute sa tête, il faut la ponctionner régulièrement, le médecin s'infecte un peu tout saute, le médecin décide que, finalement, un peu essoufflé, que finalement c'est sa fin de vie, et commence à lui administrer une sédation finale, parce que ça s'est toujours fait, la sédation finale. C'est pas la loi qui va la créer. Ça existe dans toutes les pratiques médicales. D'autres médecins vont intervenir, mais halte là. Elle vous a pas donné son consensus, d'une part, et rien ne prouve qu'elle soit en situation terminale. Et effectivement, la sédation arrêtée, la pleurésie s'est cloisonnée, terme médical, mais enfin bon, elle s'arrête. Et ça fait, elle a repris ses activités. Des petites activités, mais ces activités quand même, et ça fait 3 ans.
Mais c'est un autre cas particulier.
Elle n'avait rien demandé. C'est une erreur de diagnostic.
Là aussi, devant une situation qui peut être dramatique, être essoufflée, avoir une pleurésie cancéreuse, on peut demander, mais effectivement, si alors, on peut assurer 3 ans de confort.
Bien sûr, mais ça, là-dessus, nous sommes tous d'accord. Nous sommes tous d'accord, mais je voudrais vous proposer 2 autres citations ou références. Dans le dernier livre d'Imre Kertész, Une ultime auberge, Imre Kertész est lui-même atteint de la maladie de Parkinson, on trouve ces phrases extraordinaires de Sándor Márai, autre grand écrivain hongrois. C'est un manque de tact que de vivre plus longtemps qu'il ne convient. Bon, je cite cette phrase, mais c'est pas celle-là que je voudrais que nous commentions. La seconde me paraît plus importante pour notre propos. Il ne faut pas se hâter, mais il ne faut pas non plus rater la bonne mort. Je trouve cette phrase vraiment, tous ceux qui commencent à vieillir, ils pensent nécessairement, il y a un moment où on va rater la bonne mort, et là, il sera trop tard, on sera hébété, la perspective de l'hébétude, on n'en veut pas, et je pense, mais justement, à contrario, ce que j'ai lu récemment à propos de Valérie Larbaud, merveilleux écrivain et poète, il est, en 1937, il fait une attaque. Une attaque, et effectivement, elle le laisse hémiplégique et quasi aphasique. Il arrivait à prononcer une seule phrase. Il a vécu comme ça de 1935 à 1957. Mais il prononçait une seule phrase. « Bonjour les choses d'ici-bas ». C'est une... Mais ça, c'est une phrase. C'est magnifique. Oui, donc ça voulait dire que il était dans la vie et dans le monde. Et on voit tant de gens dans ces maisons de retraite, etc., qui ont dit adieu aux choses ici-bas, sans d'ailleurs regarder ailleurs, le regard perdu dans le néant, que ça ne peut pas s'appliquer à eux. Donc c'est pour cela et pour cet avenir qui va être le nôtre qu'on a envie de dire à la médecine mais soyez vraiment compatissante. Soyez vraiment compatissante. Aidez-nous.
Être compatissant, c'est prévenir. Je rappelle que dans la prévention de l'accident vasculaire cérébral, il y a des progrès extraordinaires qui ont été faits et dans lesquels c'est devenu successivement, alors on rappelle que c'était souvent une maladie de la femme jeune, c'est devenu beaucoup plus rare, y compris dans la vieillesse, que la majorité des vieillards, là je parle des vieillards, mourront sans phase de dépendance, y compris à la période, sauf à la période tout à fait terminale des derniers jours de la vie, mais la mort subite est la mort la plus fréquente du vieillard. C'est pas là. Et que la meilleure façon.
La majorité, dites-vous.
La très grande majorité des vieillards vont mourir sans personne. Je rappelle qu'en France, il est démontré que 87% des situations de grande dépendance sont liées à des syndromes démentiels. Vous voyez donc que la part qui reste en Parkinson, maladie terrible,
et aux accidents vasculaires. Les syndromes démentiels sont ceux des vieillards, justement.
Sont ceux des vieillards. Je parle en 87% de la situation de grande dépendance, et on peut avoir un Alzheimer à 35 ans, et il va être beaucoup plus. Mais on peut avoir d'autres maladies dégénératives qui vont démarrer très jeunes. Mais dans la majorité, je suis bien d'accord, ce sont des vieillards. Mais, la majorité des vieillards ne vont pas avoir de syndrome démentiel. Je rappelle que quand on a fait l'étude il y a maintenant longtemps, plus de 20 ans, chez les centenaires, il n'y avait parmi les centenaires hommes qui avaient été étudiés aucun syndrome démentiel.
Ah, mais moi je sens déjà les premiers symptômes venir, donc je suis pas sûr que je serai dans la bonne proportion.
Oui, je vous aiderai.
Alors, je vais vous donner un dernier exemple qui est cité par André Comte-Sponville dans un dialogue qu'il a eu pour le journal Le Monde avec Corinne Pelluchon sur l'euthanasie. Et il dit ceci, il parle des personnes malades, des très grands vieillards qui vivent dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD. Oui. Il dit qu'il a beaucoup fréquenté ces endroits et que ceux-ci sont atroces, non pas à cause des soignants qui font preuve de compétence et de dévouement, mais parce que beaucoup de résidents y sont objectivement privés de liberté. Le contrôleur des lieux de privation de liberté a d'ailleurs demandé à se saisir des EHPAD. Il a raison. Tous les résidents n'y sont pas entrés volontairement. Beaucoup voudraient en sortir. Et parmi ceux qui sont conscients, qui ne supportent plus d'être enfermés, incontinents, dépendants, sourds ou paraplégiques, certains demandent à mourir. Et on ne peut pas se suicider dans un EHPAD. Et là encore, vous me dites, tous les centenaires cette situation-là, fait quoi pour ces gens-là?
Oui, alors l'EHPAD, effectivement, est une situation qui permet de prendre en charge... Alors, tous les EHPAD ne sont pas idéaux, malheureusement. Mais de prendre en charge, avec compétence et avec, si possible, avec dignité, la personne qui ne veut plus rester chez elle, soit parce qu'elle est seule, effectivement...
Mais là, c'est ceux qui ne veulent plus vivre. Non,
c'est ceux qui ne veulent plus vivre, toujours.
Alors, en EHPAD, ceux qui ne peuvent plus vivre... Qu'y a-t-il dans une EHPAD? Il y a plusieurs populations dans une EHPAD, si j'ai compris bien. Il y a des populations atteintes de syndrome démentiel sévère, qui tendent petit à petit à devenir majoritaires, parce que les gens qui sont capables de récupérer, on réussit à les maintenir au domicile. Là aussi, il y a une prévention de l'entrée en EHPAD qui existe. Donc c'est pour permettre d'assurer des soins de confort et de dignement de ces personnes qui ont des atteintes graves du point de vue cognitif, mais forcément dans ces cas-là, également du point de vue de leur mobilité. Donc sont-ils en fait... Donc il y a plusieurs problèmes qui sont posés, celui de l'enfermement et celui du désir de mourir. Premier problème, celui de l'enfermement, donc la plupart sont incapables de se déplacer par eux-mêmes, en particulier parce que certains ont, et c'est là la gravité, ont perdu l'envie de se déplacer. Donc le problème est de redonner des objectifs, y compris en EHPAD. Et tout, dans l'EHPAD, on peut mourir d'ennui. D'ennui.
Et oui.
Ça existe s'il n'y a rien qui soit proposé. Donc la principale chose en EHPAD, c'est de permettre à ces personnes, dans un bon EHPAD.
Moi j'ai vu des maisons de retraite on proposait chanson, de la musique pour des vieillards qui étaient réunis là, qui étaient assis sur leur fauteuil, la bouche à moitié ouverte, complètement hébétés, qui n'en avaient strictement rien à faire.
Alors là, le problème est d'éviter l'infantilisation. Certaines prétendues animations sont des maltraitances. C'est quelque chose d'extraordinairement difficile. Il faut bien se rendre compte que la mission des EHPAD. Et puis, est en train de s'ajouter une autre population qui sont les très grands vieillards qui ont leur tête, qui généralement ne marchent plus parce que ils sont restés trop longtemps dans leur fauteuil sans marcher. Et qui eux sont là parce qu'ils sont tout seuls et ne peuvent plus marcher. Et eux sont lucides. Et il faut faire cohabiter ces populations qui s'ignorent. C'est une mission très difficile sur laquelle il y a eu de grands progrès depuis une vingtaine d'années, mais il en reste d'énormes à faire.
Bon, alors nous terminerons là-dessus, sur ces progrès qu'il reste à faire. Merci beaucoup Robert Moulias, merci Emmanuel Bernheim. Je rappelle Emmanuel Bernheim le titre de votre très beau livre, Tout s'est bien passé, il a été publié chez Gallimard, il est maintenant disponible en collection Folio. J'ai cité également de Paulina Delmayer, Je vous tiendrai la main, Euthanasie, travaux pratiques, aux éditions Plein jour. Vous trouverez les références bibliographiques sur le site réplique-franceculture.fr où l'émission est téléchargeable 1 an et réécoutable 1000 jours. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre Auschwitz pour mémoire et mon invité sera Marceline Loridan-Ivens. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Anne-Catherine Lechard et Didier Lagarde. À la technique aujourd'hui, Bruno Gagnère-Fontanil. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet. Actualité de Courteline avec Jean-Claude Yvon.